comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
Une France arabe, les Égyptiens de Bonaparte en exil après 1801.
Désastre militaire, l'Égypte est un triomphe médiatique.
Dans les théâtres, qu'est-ce que l'on joue ? L'expédition d'Égypte, la victoire des pyramides.
Voilà l'image miraculeuse conservée en France de l'expédition. En réalité, en 1799, Bonaparte a planté là l'Orient qui résistait pour aller cueillir la France qui s'offrait. Et deux ans plus tard, les troupes françaises rembarquaient à leur tour et avec elles, les Égyptiens qui avaient cru au langage de modernisation de la France. Au total, c'était quelques centaines de personnes qui allaient constituer une des premières France arabes. Certains seront des mamelouks, beaucoup resteront des pauvres parmi les pauvres. Quelques-uns deviendront des orientalistes de première qualité. Quand on regarde le tableau du sacre de Napoléon par David, on en voit un, le troisième à droite derrière l'empereur. C'est un prêtre d'origine syrienne. Il est professeur à l'école des langues orientales. L'Empire lui donne un poste, mais le contraint au silence. Le cosmopolitisme affiché, oui, mais répressif. En 1815, beaucoup de réfugiés égyptiens de Marseille furent massacrés par les bandes de la Terreur blanche. Parmi les survivants, certains rentrèrent. Mais l'ascension sociale était toujours envisageable pour eux à Paris. Pendant la Restauration, l'égyptomanie était bien portée. C'est après l'expédition d'Alger de 1830 qu'il fut beaucoup plus difficile d'être français et arabe tout à la fois.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Yann Koller, bonjour.
Bonjour.
Une fois n'est pas coutume, professeur d'université, l'université La Trobe de Melbourne. Australie. Vous publiez un livre sur ce groupe de quelques centaines de personnes que vous étudiez sur deux générations, c'est aux éditions Alma. Il faut dire, Yann Koller, parce que ça va surprendre les Français tellement franco-centrés, que vous avez découvert Paris en l'an 2000 par les quartiers arabes, après avoir appris l'arabe.
Oui, c'est ça en fait. Donc, mon premier Paris, c'est le Paris arabe, parce que je suis arrivé à la gare du Nord. On m'a présenté un ticket de foyer. Donc, je me suis allé par le boulevard Magenta. J'ai vu, en fait, le Paris arabe qui était partout. Et je me suis posé la question pour la première fois, qu'est-ce que c'est l'histoire de ces gens? Mais finalement, cette recherche m'a mené dans une direction que je n'avais pas entendue.
Vous diriez, enfin vous l'écrivez, noir sur blanc, que les premières recherches sur la diversité dans l'histoire française sont souvent le fait de chercheurs anglo-saxons?
Oui, je pense que c'est le cas, parce que cette idée des communautés qui sont dans la République, c'est pas une idée qui a eu beaucoup de popularité en France pendant une période. Le multiculturalisme, c'était toujours considéré comme anglo-saxonne. Et en fait, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, cette idée de communauté, c'est très important. Donc, c'est plus familier à nous.
Alors, vous expliquez aussi que vous ne venez pas prôner le modèle multiculturel en France. Vous avez travaillé sur les correspondances que ces Égyptiens de France échangeaient entre eux en arabe. Et puis, vous avez découvert aux archives militaires de Vincennes des cartons. Une douzaine de cartons qui attendaient un lecteur. C'était vous?
Oui, c'est ça. En fait, il y avait des documents qui étaient toujours pliés depuis le premier dépôt des documents. Il y a des autres chercheurs qui avaient étudié les Mamelouks, mais pour les gens ordinaires, les pauvres réfugiés, il n'y avait personne qui s'y est intéressé. Et donc, j'ai eu cette grande découverte. C'est vraiment la joie de l'historien, ça.
Les Mamelouks, c'est curieux, observez-vous, parce que c'était le nom des adversaires de Napoléon. Il luttait contre la tyrannie des Mamelouks et il a donné ce nom aux soldats prétoriens qu'il accompagnait plus tard.
Oui, c'est ça. Mais c'est ça la propagande de Napoléon. Ouais. C'est vraiment En fait, il s'est présenté comme un défenseur de l'Empire ottoman. Mais en même temps, il a rompu absolument cette alliance avec les Ottomans qui existait depuis des siècles. Mais juste après, donc, il a rompu avec l'idée d'une Égypte indépendante. Il est revenu dans cette idée de rétablir l'alliance.
Alors là, non, pas trop vite, Yann Koller. Là, vous nous parlez du rétablissement de l'alliance avec les Ottomans du fait de Napoléon empereur, mais le général Bonaparte partant en 1798.
Au nom du Dieu clément et miséricordieux, de la part de la nation française, fondée sur la liberté et l'égalité, Bonaparte, le grand général, chef de l'armée française, fait savoir à tous les habitants de l'Égypte. Tous les hommes seront égaux devant Dieu. Tous les Égyptiens pourront occuper les plus hautes positions et obtenir les grades les plus élevés. Les plus sages, les plus vertueux, les plus instruits gouverneront et le peuple sera heureux. Heureux les habitants de l'Égypte qui se joindront à nous sans retard. Ils prospéreront dans leur fortune et dans leur rang. Heureux encore ceux qui resteront dans leur maison et seront neutres. Ceux-ci, quand ils nous connaîtront, s'empresseront de s'unir avec nous de tout cœur. Mais malheur à ceux qui combattront contre nous. Il n'y aura pas de porte de salut pour eux. Ils périront et leurs traces disparaîtront. Appelés à siéger au sein du Diwan, aux côtés d'officiers et de savants français, les notables égyptiens vont découvrir un rythme de vie, une tournure de pensée, un système de valeurs qui tranche radicalement avec les leurs. Jusque-là, le cycle de leur existence leur avait semblé aussi immuable que le cours éternel du Nil.
Un film de Jacques Barsac et Mahmoud Hussein, c'est la représentation habituelle, dominante dans l'historiographie française. En fait, vous n'allez pas raconter l'expédition d'Égypte, mais c'est vite une impasse. C'est ensuite un désastre. Et qu'est-ce qu'il advient de ceux qui avaient cru au projet et qui étaient compromis avec le projet quand, 2 ans après le propre départ de Bonaparte, les dernières troupes en 1801 s'en vont.
Oui, je pense qu'il faut donner aux Égyptiens leur agencement, leur choix, en fait, leur compréhension politique de tout ce qui se passé à cette époque. Ils n'étaient pas des gens isolés et stupides, et c'était des gens qui connaissaient le monde, et surtout donc il y a différentes populations, différents groupes comme les chrétiens, les musulmans, etc. Et il y avait certains qui étaient vraiment pris dans les courants, comme le général Yacoub qui
dirigeait la Légion copte.
Oui, exactement.
Les auxiliaires.
Et c'est vraiment un personnage extraordinaire c'est l'un des premiers coptes à porter des armes. Donc il est devenu général dans l'armée française. Et c'est lui qui a proposé cette idée d'une Égypte indépendante, mais pas seulement pour les coptes, mais pour tous les Égyptiens.
Alors lui, il part avec les troupes françaises en 1801, il voudrait entraîner davantage de membres de la Légion copte. Il est le chef naturel du groupe de quelques centaines de personnes qui s'éloignent des côtes. Et il y a des marchands, des fonctionnaires,
oui.
Des prêtres,
oui.
Des prêtres chrétiens,
oui.
Quelques musulmans.
Oui.
Et la catastrophe, c'est que pendant la traversée, le général meurt.
Oui. Oui, c'est ça. En fait, comme ça, ils sont transformés d'exil politique en réfugiés. Et ils disent ça immédiatement. Ils arrivent à Marseille, ils sont dans la quarantaine pendant une période assez longue. Et comme ça, ils commencent, on voit ça très bien dans les lettres, les pétitions qu'ils font. Ceux qui s'appellent la Légion égyptienne. Mais de plus en plus, ils commencent à comprendre que maintenant, ils sont des réfugiés. Ils n'ont pas de chef.
Et
ils
n'ont pas de projet politique. Bonaparte n'a plus de projet pour eux.
Oui, c'est ça.
Puisque maintenant, il va, vous l'expliquiez il y a un instant, renouer avec l'Empire ottoman. Alors, comment s'organise-t-il à Marseille? Vous étiez à Marseille ce week-end. Vous avez expliqué à la population Esbobie, au Mucem, qu'était cette communauté qui s'appelait comment? Les réfugiés d'Égypte?
Oui, ça a commencé comme réfugiés d'Égypte, mais finalement, c'est devenu réfugiés égyptiens. c'était pas forcément des Égyptiens. Il y avait beaucoup de Syriens, Palestiniens, même des Soudanaises, des femmes noires.
Des négresses.
Oui, exactement, comme disait le maire surtout. Et donc, en fait, c'est une population très hétérogène. Et au début, c'était très difficile pour eux de se considérer comme une population, comme un groupe qui était uni. C'était donc de trouver des projets pour s'insérer dans la société française.
Mais c'est difficile aussi, vous parlez du maire de Marseille en le critiquant, c'est difficile pour l'administration de les nommer collectivement et de les identifier et de les nommer individuellement.
Ouais.
On ne sait pas comment faire.
Oui, ce qui est vraiment frappant, c'est qu'en 1806, le maire de Marseille propose de les enfermer tous dans le Fort Saint-Jean, qui est devenu le Mucem. Donc, c'est vraiment un lieu très historique pour les Égyptiens de Marseille.
Mais on leur donne des pensions, parce qu'ils ont rendu des services à la France. Et peu à peu, ils vont s'organiser comme un village avec les autres arabophones de Marseille. Alors, vous expliquez, le pain, les légumes, les fruits, les vêtements, on les trouve.
Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai trouvé aussi dans la correspondance arabe qu'il y avait un échange constante entre Paris et Marseille, ceux qui étaient les quelques personnes qui ont eu en fait le privilège d'arriver directement à Paris, ont échangé leur pouvoir, en fait leur appui avec les autorités contre des produits comme le molokhia, qui est un légume très, très, très populaire en Égypte, et d'autres produits.
Et ils ont un professeur d'arabe au lycée.
Ouais.
À partir de 1807.
Oui, c'est vraiment
un prêtre frappant. Syrien. Toujours ouais. Des prêtres syriens, on va en retrouver tout au long de cette émission. 1815, après Waterloo, il faut bien comprendre, vous l'expliquez, Yann Koller, combien la période est difficile. Il y a 3 changements de régime en 2 ans, des prestations de serments successives. Elle est particulièrement difficile, la période, pour les Arabes de Marseille, qui sont quand même identifiés peu ou prou à l'empereur. Les classes populaires de la ville ont un tropisme royaliste et des bandes royalistes, d'ailleurs, dans toute la région, un peu partout en France, mais surtout dans le Midi, pratique la terreur blanche.
Ah, nous avons vécu des temps difficiles, mon cher Caumont.
Parlez plutôt au présent, mon cher Rémusat. Ce n'est pas une belle page pour la France que la terreur blanche, monsieur le préfet. Je n'approuve pas que le personnel de la marine militaire ait été presque entièrement renouvelé, que l'on ait vidé presque totalement de son personnel le ministère de la guerre, qu'en vertu de la loi de sûreté générale, de trop nombreux préfets aient banni des citoyens qui ne leur plaisaient pas. Je n'approuve pas que l'on ait procédé à Orléans un véritable auto-da-fé où l'on a brûlé, en présence du préfet et du maire, tous les tableaux, les livres, les statues de l'époque impériale. Je n'approuve pas que l'on ait condamné au supplice des parricides 3 modestes artisans de Paris qui s'étaient réunis dans une sorte de franc-maçonnerie et n'avaient fait qu'éditer des cartes portant un insigne de reconnaissance. Ces pauvres gens ont été revêtus de la chemise blanche, on leur a couvert la tête d'un voile noir, on les a conduits à pied place de Grève. Le bourreau leur a tranché le poing droit sur un billot, comme au Moyen-Âge. Ils ont eu tous les 3 la tête coupée. Je ne comprendrai jamais les massacres du Midi. Jamais, jamais, je ne les excuserai jamais, jamais.
À mort les négresses, il y a quelques excités pour pousser ce cri du côté de Castellane, un quartier de Marseille.
Oui, c'est un moment épouvantable, vraiment. C'est cette nuit du 25 juin.
Après, 1815.
Oui, 1815. Après la nouvelle de la défaite de Waterloo et la retraite des troupes bonapartistes de la ville. Et comme ça, les gens ordinaires, les bonapartistes, mais aussi les Égyptiens et les gens de couleur étaient ciblés comme ça par la foule. Et surtout, en fait, il y a un récit horrible de la meurtre des 2 femmes noires sur le Vieux-Port. Mais on raconte vraiment comment l'une d'eux, elle a été tuée, mais elle continuer à pousser des cris « Vive l'empereur, vive l'empereur !» Et donc on voit comme ça que même au point de la mort, elle a insisté sur cette appartenance politique.
Et les témoins que vous citez disent qu'on voyait même du vieux port surgir, sa main, qui continuait à faire des signes en faveur de l'empereur. Vous étiez à Marseille ce week-end, vous auriez pu y rencontrer le groupe Dupin qui s'est reconstitué il y a peu, qui existe depuis votre premier séjour en France et qui mêle au parler marseillais, à la musique d'origine provençale, beaucoup d'accents orientaux.
Sous les quatre ans d'un matin, comme il est réveillant toute la nuit, les masques sont mis de mi-baire. À sabre le brino, c'est même dormi. Vas-y, le tchat, je viens, quand on a réalité. Regarde, tu es là. Podi beire, si un melodie le va, podi pa creire. Un co de mai va fa le trima, un co de mai va fa le bulega. Si la vintanda co, che se si ha la sasiga, da ben le sa lo paiso, e la chiamalitona. Si la vintanda co, se vuol la fai di creva che a me se mezzo il mondo con gli tre scoperti passa ben poi il momento che di a decidere le passe carriere finca la prefettura.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Yann Coller qui, aux éditions Alma, Une France arabe raconte l'histoire inconnue jusqu'ici des Égyptiens qui ont suivi Bonaparte ou les Français qui quittaient l'Égypte après Bonaparte en 1801. Votre livre couvre deux générations, parce qu'après 1815, le massacre de la Terreur blanche à Marseille, un certain nombre d'entre eux sont rentrés. Ils touchaient des pensions, on leur a dit... Il y a des procédures d'aide au retour, ça existe dès 1817. On leur a dit, on vous donne un an de pension d'avance et vous prenez vos clics et vos claques, hein, c'est ça?
Oui.
Et d'autres sont restés... plus invisible avant qu'à Marseille. Il y a quand même sous la Restauration une église melkite qui est créée pour eux, parce que tous ces Arabes sont pour l'énorme majorité des chrétiens. Mmh. Et puis, vous avez découvert que beaucoup se sont glissés individuellement à la recherche d'un destin propre à Paris. Et vous faites cette description du Paris arabe de 1820. Vous dites, imaginez que vous soyez Champollion. Vous cherchez à prendre contact avec des milieux arabophones ou arabisants. Il y a plein d'occasions à Paris en 1820.
Oui, absolument. Et Champollion, c'est l'un des sources. C'est dommage, en fait, qu'il est rentré chez lui, à un certain moment. Et donc, il n'a pas pu raconter toute cette histoire. Mais bon, il a commencé à faire des leçons d'arabe avec le prêtre qui est dans le sacre de Napoléon.
Prêtre syrien,
ouais, Rufael Sarkour,
professeur à l'école des langues eaux.
Et aussi des leçons de copte. Et c'est des leçons de copte qui... en fait, l'ont vraiment aidé à déchiffrer les hiéroglyphes. Finalement, c'est la relation avec la langue copte.
Parce qu'on imagine l'égyptomanie très forte au retour d'Égypte. Moi, je pensais que c'était le moment le plus prégnant. Zacharie Bloubli a fait une expérience. Il est allé avec Jean-Marcel Imbert, égyptomaniaque et égyptologue, sur les lieux qui, dans l'architecture, dans le décor, évoquent l'Égypte, ici et là, dans notre capitale. Et notamment, place du rue du Caire, c'est juste à côté de la place de la Bourse. Et l'immeuble égyptien, c'est pas un immeuble de l'époque de l'Empire, c'est un immeuble du milieu de la Restauration.
Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez décrire le bâtiment que vous voyez ?
On a un immeuble... avec des sculptures, on va dire, égyptiennes, aussi avec des gravures un peu hiéroglyphes, donc qui nous font vraiment penser à l'Égypte, en effet.
Il y a, à cet endroit-là, ce qu'on appelle le passage du Caire. Et ce passage du Caire devait regrouper à ce moment-là des marchands qui vendaient des produits exotiques et immeuble qui a été construit après le passage du Caire, mais qui devait en même temps illustrer en quelque sorte ce quartier qui était un peu exotique.
En fait, on a voulu faire un souk.
Ça me paraît évident.
Nous sommes au 52 rue de Sèvres, devant la fontaine du Fela.
On voit un homme, à vrai dire, qui est très musclé, droit, qui tient deux jarres, le regard à l'horizon, sûr de lui, voilà. Je vois qu'en haut, il y a, je sais pas si c'est en rapport, mais il y a un faucon, donc je dirais que c'est quelque chose d'égyptien.
Et quand Napoléon offre aux Parisiens des fontaines, parce que Paris était relativement mal approvisionné en eau, il y en a cinq qui sont à l'égyptienne, et notamment la célèbre fontaine du Fela, rue de Sèvres, et qui représente un Égyptien qui, en fait, n'est pas non plus un Égyptien. C'est un Égyptien qui fait partie de l'Égyptomanie romaine. C'est une représentation d'Antinoüs, une statue qui avait été retrouvée dans la villa d'Adrien et qui se trouvait au Louvre à ce moment-là au titre des prises de guerre de Bonaparte en Italie, qui a été copiée par un sculpteur pour en faire une fontaine. Mais ce qui est amusant sur cette fontaine, c'est que cette divinité, en quelque sorte, a été transformée en porteur d'eau, alors qu'en fait, elle a la coiffure pharaonique, les attributs royaux, et pourtant, c'est un porteur d'eau. Et en haut de la fontaine, on trouve l'aigle impérial.
On est dans le milieu intellectuel maintenant. Vous parliez de Champollion, vous parliez de Rufail, le prêtre syrien professeur à Langso. Est-ce que c'est plus facile d'être un égyptien orientaliste, intellectuel, à l'époque de la fontaine du Fela, à l'époque de Napoléon, ou bien en 1825?
Je pense que c'est plutôt sous la Restauration, ça m'a vraiment, c'était une surprise pour moi de trouver que, en fait, c'est sous la Restauration que les Égyptiens ont vraiment prospéré, parce que sous Napoléon, la question de l'Égypte restait politique. Il y avait toujours une possibilité de faire une autre invasion, de remettre en jeu, mais sous Louis XVIII, qui est, je pense, il est mal considéré dans l'histoire de la France, mais c'était quelqu'un qui a quand même duré 10 ans en pouvoir après la Révolution et Napoléon, et qui a remis un peu la paix. Et pour les Égyptiens qui arrivaient aux années 1820 à Paris, ils ont trouvé des postes qu'ils ne trouvaient pas sous Napoléon.
Parce que Rufail, le prêtre syrien, le troisième à droite dans le tableau du sacre, vous le décrivez comme alcoolique. Il fait du vacarme et du tapage nocturne dans son immeuble. Et il ne publie rien de tout l'Empire. Il n'a pas le droit de publier. Le cosmopolitisme est répressif. Il va retourner en Orient. Et vous faites le portrait d'un intellectuel apparemment plus heureux, qui s'appelle Joseph Akoub, qui enseigne lui l'arabe à Louis le Grand.
Oui.
Et qui a davantage les coudées franches.
Absolument. Joseph Akoub, c'est un vrai. C'est quelqu'un qui a vraiment réussi à trouver, pour un moment au moins, une identité qui était à la fois français et arabe. Et il se décrivait comme le premier arabe d'avoir lu Voltaire, etc. Mais finalement, lui aussi, il a
on en parlera, on va parler problèmes. De la césure de 1830. Mais avant, il y a cette venue de 44 étudiants envoyés par Mehmet Ali. Et parmi eux, un garçon incroyable qui a fait une relation de la vie en France, lors de Paris. Mais ça, les Français l'ignorent. Ils s'intéressent qu'à la girafe, ou bien 10 ans plus tard, l'obélisque, représentation exotique commode.
Allons, monsieur de Saint-Hilaire, ne nous faites pas attendre plus longtemps.
Voilà, votre majesté. Cadeau du pacha d'Égypte.
Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Une girafa camélopardalis. Je veux dire, une girafe, votre majesté.
Oh, mais quelle belle girafe!
Vive la girafe du roi!
Non, mais regardez-moi son cou, que c'est laid.
J'aime beaucoup les motifs de sa peau.
Ça y est, les artilleurs commencent à tourner les cabestans.
Regardez-la, elle monte, elle se soulève.
Qui c'est, elle?
Et tiens, pardi, l'obélisque.
À cause toujours, on dit pas elle, mais lui.
Oh,
oui, parfaitement, on dit un obélisque.
En tout cas, lui ou elle, ça a l'air de peser quelque chose.
Mais qu'est-ce qu'ils ont à crier, là-bas?
Attendez voir.
On dirait qu'ils acclament les gens qui sont au balcon du ministère de la Marine.
C'est le roi, la reine et tout le tremblement.
Sire, voici monsieur Apollinaire Lepas, ingénieur de la Marine, qui est responsable de l'obélisque depuis plusieurs années. C'est lui qui l'a embarqué à Thèbes, à bord du Luxor, qui l'a débarqué à Paris, et c'est lui qui dirige aujourd'hui cette délicate manœuvre.
Les Parisiens pourront bientôt venir contempler les hiéroglyphes, célébrant les mérites de Ramsès II et de ses ostrices.
C'est une émission de la radio de 52 signée Henri Noguer et avant un extrait du dessin animé fameux Zarafa sur la girafe offerte à Charles X. Voilà la représentation dominante concernant les Égyptiens en France à cette époque-là. Entre les deux, il y a quand même 26, la girafe 36, l'obélisque, la révolution de 1830 et surtout l'expédition d'Alger. Alors ça, c'est la grande césure pour vous.
Oui, c'est un... début de juillet que les Français sont arrivés à Alger et c'est à la fin de juillet qu'on a renversé la monarchie Bourbon finalement et remplacé avec Louis-Philippe. Et ces deux événements, on a eu des difficultés à les mettre ensemble et comprendre ensemble ces deux moments. Mais je pense que par ces Arabes, j'ai vu en fait comment il y a quelqu'un comme Johanni Firaoun, par exemple, qui a participé à la révolution de juillet.
Alors Johanni, ça s'écrit Pharaon, je vais le dire comme ça. Oui. Il participe à la révolution de juillet, c'est un Égyptien de la colonie des réfugiés d'Égypte. Et comme c'est un bon arabisant, oui, on va l'employer comme interprète dans la prise de la mosquée d'Alger en 1832.
C'est ça. Il est appelé par le duc de Rovigo, ancien ministre de police sous Napoléon, qui est devenu comme ça, après la révolution de juillet, un fonctionnaire assez important et a pris le charge d'Alger. Et il a fait appel à Johanni Firaoun et qui a découvert comme ça, en fait, qu'il voulait confisquer la plus belle mosquée d'Alger, la mosquée Kechawa. Et il a été obligé de négocier cette prise.
Vous voulez dire qu'il a été obligé de choisir son camp ?
Ouais. Il y avait des milliers de musulmans qui se sont enfermés dans la mosquée pour manifester contre ça. Et il y a l'armée française qui est arrivée derrière et les interprètes étaient entre les deux. À ce moment-là, je pense, sur les marches de la mosquée de Kechawa à Alger, il fallait faire un choix entre les deux.
Vous dites qu'il devient impossible d'être français et arabe tout à la fois à partir de 1830.
Ouais. Oui, c'est ça. Même pour Joseph Agoub, qui était à Paris, qui était professeur d'arabe au lycée Louis-le-Grand, c'était un poste très important. Et après, en fait, on a dit non, mais c'est pas approprié d'avoir un arabe dans un étranger dans un poste comme ça.
On l'a déchargé de son poste et il est mort viré en exil, très pauvre, oublié très vite à Lyon. Merci à vous, Yann Koller. Votre livre, Une France arabe, premier pas dans une histoire de la diversité. Au début du 19e siècle, l'émission était réalisée par Jacques Sigal, préparée par Zachary Boubli, Linka Negulesco, Frédéric Martin et Franck Olivard. Jean-Noël Vélan à la technique. Alors demain, on change de monde. Yves Saint-Laurent.